Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, notre Seigneur invite trois de ses apôtres sur le mont Tabor et devant eux, il est transfiguré d'une lumière qui n'est pas une simple lumière physique, naturelle, qui est le rayonnement de la divinité à travers l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Éphrem, le Syriaque, Saint Éphrem nous dit que les apôtres sur le Tabor voient deux soleils, le soleil de la lumière naturelle et le soleil de la lumière surnaturelle. Bien sûr, les apôtres ne voient pas directement la divinité de notre Seigneur, cela est réservé aux bienheureux du ciel, de voir Dieu directement tel qu'il est. Ils ne voient encore que le rayonnement de la divinité. Mais ce rayonnement est particulièrement merveilleux. Normalement, notre Seigneur aurait toujours dû rayonner, mais il avait voulu vivre dans les conditions humaines. Et c'est pourquoi sa gloire était cachée. On pourrait s'attendre à ce que notre Seigneur, après avoir ainsi montré sa divinité, accéderait à la demande de Saint-Pierre. Faisons ici trois tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie, et parce qu'il nous est bon d'être ici. On pourrait s'attendre à ce que, puisque la vie chrétienne est une ascension vers le ciel et qu'il est de la nature de la vie de progresser et de ne jamais régresser, c'est-à-dire de ne jamais revenir en arrière, ça c'est très important, la vie humaine, toute vie progresse, elle ne régresse pas. On pourrait donc s'attendre, puisque la vie humaine est une progression, à ce que notre Seigneur ne fasse pas redescendre ses apôtres dans le monde, mais qu'il les garde avec lui, qu'il les introduise déjà plus ou moins dans le ciel. C'est bien le contraire. Saint Pierre demande à rester avec notre Seigneur et à faire trois tentes, trois tabernacles, trois demeures, si vous voulez. Et notre Seigneur non seulement n'accède pas à la demande de Saint-Pierre, mais lorsque les trois apôtres relèvent les yeux après avoir été, stupéfaits par le rayonnement de la divinité de notre Seigneur, ils relèvent les yeux et que voient-ils? Jésus tout seul, la vision a disparu. Ils redescendent donc dans le monde et notre Seigneur va, qui plus est, notre Seigneur va vers sa passion. Il y a une remarque assez surprenante de notre Seigneur. Il leur interdit de parler de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. On peut donner plusieurs raisons à cela. La plus évidente est qu'il faut un temps pour tout et que notre Seigneur ne veut pas tout révéler d'un coup. Déjà, il ne s'est montré qu'à trois apôtres sur les 12. A fortiori, ce n'est pas encore le moment de se montrer au peuple juif. Et pourquoi n'est-ce pas le moment? Parce que justement, ils ne sont pas associés encore à la croix. La croix est la voie vers la gloire. Vous allez me dire que ces trois apôtres, eux non plus, n'avaient pas été associés à la croix. Enfin, quand même, ils ont tout quitté pour suivre Jésus. L'Évangile nous dit qu'ils quittèrent immédiatement leur filet, leur père et leur filet, leur barque, c'est-à-dire toutes leurs occupations, toutes leurs attaches au monde. Ils ont tout quitté. Saint-Pierre, une fois, le dira, « Seigneur, quelle sera notre récompense à nous qui avons tout quitté pour vous suivre ?» Les apôtres, du côté de l'union à la croix, sont certainement en avance sur les Juifs. Ne parlons pas de la Sainte Vierge, bien sûr, qui, elle, est beaucoup plus en avance encore que les apôtres sur l'union à la croix, et c'est pourquoi elle n'a pas besoin de la transfiguration, parce qu'elle est à un niveau beaucoup plus élevé, tant dans l'union à la croix que dans l'union à la divinité. Notre Seigneur demande donc aux apôtres, aux trois apôtres, de ne pas parler de cette vision, d'une manière à ne pas détourner les fidèles, les juifs, les fidèles, de leur vie dans le monde, de leur lutte dans le monde, des épreuves dans le monde. Certainement, c'est pour nous une leçon, une grande leçon. Parce que, je vous l'ai dit dimanche dernier, le monde est le lieu de vie du chrétien. Il faut aller un peu plus avant et voir que notre Seigneur n'est pas souillé par le monde. Notre Seigneur descend dans le monde et le monde méchant, le monde mauvais, le monde vulgaire, le monde qui est le royaume de Satan, ne souillera pas notre Seigneur. Non pas qu'il ne soit pas présent au monde, mais il est tellement au-dessus par sa divinité, et surtout il apporte dans le monde une foi, une énergie, une puissance, ce sont les termes de l'Écriture sainte, une puissance qui est supérieure à celle du monde, et vous savez que lorsque deux puissances s'affrontent, c'est la plus puissante qui rejette l'autre, qui repousse l'autre. Et la puissance de notre Seigneur repousse celle du monde. Il en va de même pour nous. Notre Seigneur nous a mis dans le monde et on pourrait presque dire qu'il nous fait retourner dans le monde. Nous avons été illuminés par le baptême, nous sommes illuminés par chaque communion, nous sommes illuminés par chaque communion spirituelle même, qui dans la communion spirituelle, nous montons sur le tabor avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous coupons du monde, nous nous mettons à part mentalement au moins, nous sommes sur le tabor et nous disons à Jésus ah, qu'il est bon d'être ici. Si nous pouvions rester avec vous sous la tente. Et vous savez bien, mes bien chers frères, que cela ne dure pas. La communion, spirituelle, sacramentelle, ne nous empêche pas de retourner dans le monde, bien au contraire. Bien au contraire. Cela suppose que nous soyons unis à notre Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons avec lui. Et à ce moment-là, notre puissance sera supérieure à celle du monde et le monde ne nous souillera pas. Bien sûr, Nous savons bien que durant toute l'année écoulée, cela ne s'est pas toujours passé ainsi et que nous avons bien été un peu souillés, d'où le carême. Il y a plus que cela. Non seulement notre Seigneur n'est pas souillé, mais il est la lumière qui vient dans le monde. Il apporte un feu sur la terre. Il vient pour mener le monde à lui. Il sanctifie le monde. Quiconque adhère à notre Seigneur Jésus-Christ se sanctifie et sanctifie tout ce qu'il touche. C'est pour cela que notre Seigneur est descendu sur terre. C'est pour cela que il redescend du Tabor avec ses apôtres. Le moment de la résurrection n'est pas encore venu pour lui. Le moment du triomphe n'est pas encore venu pour nous. L'Église met en rapport une épître sur la sainteté avec cet évangile de la Transfiguration. On est toujours stupéfait par la force de contemplation de ceux qui ont réalisé la Sainte Liturgie, qui, avec tant de simplicité, mettent en rapport des vérités qui leur sont naturelles, dans lesquelles ils vivent naturellement, et que nous avons tant de mal à redécouvrir. Je vous dirai très, très sincèrement, mes bien chers frères, que parler de la sainteté m'a toujours un peu fait peur, pas pour moi bien sûr, mais serons-nous bien compris? Quand on voit tous ces charismatiques qui parlent beaucoup de la sainteté et qui en ont une idée fausse. Alors, je crois, j'avais peur qu'en parlant de la sainteté, on parle d'un beau rêve, mais que cela ne s'incarne pas vraiment dans la vie. Saint Paul remet les choses au point. Il dit marcher dans la sainteté, c'est marcher et plaire à Dieu. Voilà qui est déjà beaucoup plus réaliste. Et il fait même d'ailleurs la liste des commandements et des péchés à éviter et des commandements à pratiquer. Alors là, c'est encore plus réaliste. Je suis persuadé que ce rapprochement voulu par la Sainte Église dans la liturgie vient nous montrer comment et pourquoi notre Seigneur, après avoir fait monter les apôtres au Tabor, les renvoie dans la plaine et dans le monde. Parce qu'ils vont vivre en sa présence, ils vont garder la foi dans cette vision extraordinaire. Et cela, grâce à cela, ils vont marcher sous le regard de Dieu. Ils vont plus que marcher, bien entendu, ils vont être illuminés, ils vont illuminer à leur tour tous ceux auxquels ils s'adresseront. C'est cela la sainteté. La sainteté n'est pas un rêve d'une paix céleste anticipée. La sainteté n'est pas le rêve d'un amour de Dieu sans croix. La sainteté, quand nous serons au ciel, oui, ce sera cela, mais tant que nous sommes ici-bas sur terre, la sainteté, c'est l'amour de Dieu dans la croix, par la croix, avec la croix. Et certainement, ce carême a pour but, tout carême a pour but, pas seulement de nous purifier de nos fautes, mais de nous faire monter vers le calvaire, nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui est le seul moyen de triompher avec lui dans la résurrection et dans la gloire éternelle. Ce qui nous guide, c'est la foi. Mais là, je voudrais vous faire une remarque, mes bien chers frères. Monseigneur Lefebvre nous disait, il ne suffit pas d'avoir la foi, il faut avoir l'esprit de foi. On pourrait dire les choses de façon équivalente. Beaucoup de gens marchent avec la foi, mais peu de gens marchent dans et par la foi. Beaucoup de gens vivent avec la foi, c'est-à-dire que pour rien au monde, ils ne nieraient, ils ne viendraient à renier les vérités de la foi, mais ils ne marchent pas dans et par la foi, à savoir que ce n'est pas la foi qui les fait marcher, c'est autre chose. Et si ce n'est pas la foi, il n'y a pas d'autre possibilité que l'amour du monde. C'est ou l'amour de Dieu ou l'amour du monde. Ou l'amour de Dieu dans la foi ou l'amour du monde que nous voyons. Avoir l'esprit de foi, cela se produit lorsque la foi inspire nos actions. La foi est notre guide. Elle n'est pas seulement notre guide vers lequel nous allons. Elle est l'âme de nos actions. Elle est toute la réalité de notre vie. Les libéraux sont des gens qui vivent avec la foi et non pas de la foi. Vous avez les saints d'un côté. Quand je dis les saints, j'aurais peut-être pas dû dire les saints parce que on voit tout de suite l'auréole. Vous avez ceux dont parle saint Paul qui vivent saintement, qui marchent pour plaire à Dieu et en plaisant à Dieu. Vous avez de l'autre côté les pécheurs. Ça, ce sont deux catégories claires et nettes, bien définies. Et vous avez au milieu ceux qui ont la foi, mais n'ont pas l'esprit de foi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas guidés par l'esprit de foi. Et cela, ce sont tous les libéraux, dans lesquels vous avez de multiples degrés, de multiples nuances. Entre le libéral lecteur du Figaro, le libéral lecteur de présent, le libéral de la fraternité Sabidis, vous avez tous les degrés, mais c'est toujours le même principe, c'est un accommodement. Donc, mes bien chers frères, nous que Dieu a renvoyés dans l'arène, nous sommes montés au Tabor, pas seulement par le baptême, par la communion. Nous avons eu cette vision extraordinaire de Dieu dans la tradition, par Mgr Lefebvre, par tout ce que la tradition nous a apporté, par la richesse qu'elle nous a fait découvrir dans la Sainte Liturgie. Et voilà, qu'au lieu d'une progression, en apparence, notre Seigneur nous demande une régression. Nous sommes privés de cette richesse, de cette contemplation liturgique. Vous êtes privés, mes bien chers frères, de la communion fréquente. Vous êtes privés de ce milieu chrétien en apparence dans lequel il faisait si bon vivre. Et la raison, c'est que nous avons encore à lutter, comme notre Seigneur Jésus-Christ. L'incarnation n'est pas achevée. Notre union à l'incarnation n'est pas achevée. Nous avons été jugés dignes. Il ne s'agit pas de nous lancer des fleurs, mais enfin, voilà, nous avons été choisis, vous avez été choisis, pour voir la gloire de Jésus au Tabor, pour voir la gloire de Jésus dans votre vie. Et Jésus vous demande de redescendre dans le monde. Vous allez faire très attention à ne pas vous y souiller. Vous allez faire très attention à illuminer et enflammé autour de vous, comme Jésus-Christ l'a fait. Vous allez faire très attention à vivre de la foi, dans la foi, par la foi, et pas seulement avec la foi. Vous allez faire très attention à chercher Et je terminerai là-dessus. Je pense que nous avons à faire un carême, pas seulement par rapport à nos fautes habituelles, personnelles, que sais-je, gourmandise, paresse, nonchalance ou autre chose. Posons-nous la question, elle est bien plus importante encore que le reste. Ai-je vécu dans la charité de Dieu comme je devais le faire? Ai-je rayonné la charité de Dieu comme je devais le faire? Le monde est méchant, le monde est mauvais. Comment vais-je dans ce monde être comme notre Seigneur au milieu du monde? Comment vais-je le faire aimer? Comment vais-je être apôtre? Comment vais-je vivre en bon chrétien dans cette situation nouvelle? Ne fuyons pas, mes bien chers frères, ne fuyons pas les mauvais de ce monde. Fuyons ceux qui nous demandent de fuir les mauvais. Ne fuyons pas les mauvais auxquels nous devons faire du bien. Je sais, j'exagère, mais vous êtes bien capable de mettre les nuances, vous êtes bien capable de comprendre ce que je dis. Après tout, un mauvais n'est dangereux pour nous que si nous nous laissons influencer. Voilà quelle est notre vocation. Et bien sûr, je termine là-dessus, bien sûr, cela paraît très peu de choses. Mais le but de notre Seigneur, en nous demandant cela, n'est pas que nous sauvions le monde entier, mais que nous lui soyons fidèles et vivions dans la foi, car c'est lui qui sauve et non pas nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.